Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce tout autre épisode d'Aux Premières Loges. L'épisode, en fait, le podcast où l'on revient genre, sur l'actualité des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey avec des matchs, des séries qui se sont conclues dans ces matchs. Une qui ne s'est pas conclue, on aura un match numéro 7 entre les Stars et les Golden Knights. Et pour en parler, je suis en compagnie de Vincent Tardif. Comment ça va, Vince?
Ça va bien, Tony?
Ça va très bien, comme toujours. Écoute, c'est ça, un match numéro 7 qu'on attendait tous entre Boston et Toronto hier. Mais on va commencer par Canucks contre Predators. La série qui s'est terminée en 6 matchs contre les Canucks. Donc, une équipe canadienne qui, tout comme les Oilers, va passer au prochain tour. Seulement un but dans ce match-là. Pius Suter en troisième période, assisté de Brock Besser et Elias Pettersson. Pettersson, qu'on a un peu plus vu là, dans ce match-là, il était temps là, pour les Canucks. Il va devoir, je pense, Pettersson, être beaucoup plus en vue là, contre les Oilers, parce que si on veut avoir du momentum offensif pour Vancouver. Puis aussi, côté des tirs au but, là, ça a été 29 tirs côté Canucks. Je pense que c'est leur plus haut total de tirs dans la série. Eux qui tiraient pas beaucoup au but. Fait que, qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là très défensif, Vince?
Comme tu dis, c'était très défensif. Là. Le but, il est arrivé pas avant la. Il restait une 40 là, à la troisième période. C'était un match classique auquel je m'attendais à ce que les deux équipes nous ont donné depuis le début de la saison. Un match assez serré, sans grosse ouverture offensive. Les Prédateurs qui ont distribué encore une fois pas mal de coups d'épaule aux joueurs des Canucks. Puis, c'est ça. J'ai trouvé que M. Shelov. Mm-hmm. Pour un gars de 23 ans qui a très peu d'expérience dans la Ligue nationale, a encore très bien fait contre les Prédateurs. Même chose pour Saros dans la défaite. Il a su garder les siens dans le match quand il y a eu les occasions importantes pour les Canucks. Puis sinon, ce que je vais retenir, c'est le manque d'effort d'Anthony Beauvillier là, sur le but de Pius Suter qui l'a complètement laissé aller. Là. On pourrait même se demander s'il n'a pas fait une faveur là, aux Canucks vu que lui, il a terminé sa saison l'année passée et il a joué un peu cette année. Fait que je ne sais pas si c'était une faveur. Canucks.
À voir, j'en doute, mais c'est une théorie. Puis ouais, ça se prononce She Loves?
Tu vois ce que j'entends.
Ok, moi, ça me pas. Mais merci.
Mon phoné qui est peut-être pas très bon non plus, mais.
Ouais, ben écoute, je savais pas comment ça se prononçait, fait que si c'est She Loves, ben j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Puis, ben sinon, c'est ça, tu l'as dit, duel de gardien, moi aussi, c'est ce que j'ai retenu, là, c'est. À la fois, She Loves que Saros ont été excellents et ont gardé leur équipe dans le match. She Loves, un arrêt de la mitaine, entre autres, que je me rappelle, là, qui était assez importante à ce moment-là. Puis sinon, côté des Canucks, j'ai parlé de Pettersson tantôt, mais est-ce que tu penses qu'on va être capable de rivaliser contre les Oilers, contre la machine offensive des Oilers, autant défensivement, mais aussi être capable de marquer autant ou sinon plus de buts que les Oilers?
Ben, écoute, ça va être très difficile. Là. J'essaie de retrouver la stage pendant que je te parlais. Pettersson, là, depuis février, je ne l'ai pas, mais je l'ai vu passer là, avant le début de série parce que j'avais dans un de mes poules et il ne faisait plus rien offensivement. Là, c'est pas grand but là, depuis janvier contre des équipes qui sont en séries éliminatoires. Il est un peu invisible. Je veux dire, on a un peu plus vu dans celle-là, mais il a juste 3 passes depuis le début de la série offensivement. Ouais. Il n'est pas là. C'est sûr qu'il jouait contre les Prédateurs, qui sont une excellente équipe là, bien bâtie. Comme Barry Toss les aime, ouais, avec Ryan O'Reilly, puis tous ces trucs-là. Fait que non, ils m'ont pas impressionné offensivement contre les Prédateurs. Puis si c'est Shelov qui go toutes les games, ils vont devoir préparer à marquer peut-être plusieurs buts là, s'ils veulent rester dans les parties, à moins qu'ils soient capables d'imposer leur style aux Oilers. Là. Mm-hmm. Mais si on y va du côté d'une guerre offensive, là, je pense qu'on est d'accord tous les deux de dire que les Oilers ont l'avantage si on se fie seulement à les deux équipes en première ronde.
Ouais, puis tu sais, imposer leur style aux Oilers, les Canucks, est-ce qu'ils vont être capables de faire ça? Est-ce qu'ils ont un style qui sort de la norme tant que ça, comme les Kings ont peut-être essayé de faire comme les Oilers? Je pense pas, fait que c'est ça. La solution, moi, je pense, ça va être marquer des buts puis essayer de jouer le mieux compact défensivement. Et ça, je pense, ça va être très difficile à faire, comme tu l'as dit, contre les Oilers. Pour les Preds, quand même. Ouais, vas-y.
Excusez-moi, regardez, il y a 2 ans quand c'est la série. Oilers, Flames, les Flames avaient leur style à eux. Puis les Oilers, c'était vraiment du hockey de patinoire extérieur. Là. Puis les Oilers ont amené leur style. C'est ce qui nous a donné cette excellente série-là. Fait que non, ça va être
très... Ouais, tout à fait, tout à fait. Puis on va avoir une autre série toute canadienne. Ça, c'est le fun. En deuxième ronde. Puis voilà, ben, j'allais dire pour les Preds, quand même, ils ont surpris bien des gens en se rendant en série éliminatoire, donc ça, c'est pas rien. Puis après ça, ben, ils n'ont pas passé si loin là, de battre les Canucks. C'était une série quand même très serrée. Fait que, à voir qu'est-ce que l'avenir va réserver aux Preds. Puis les Canucks, on l'a dit, là, ça va être difficile de concurrencer les Oilers en deuxième ronde. Pour moi, ma prédiction va clairement du côté des Oilers. Ensuite, Stars, Golden Knights. On s'en va en match numéro 7 dans cette série-là, donc une série qui est extrêmement excitante, même s'il n'y a pas énormément de buts, là, un peu comme les Preds et les Canucks. C'est quand même une série qui est très intéressante à regarder. Chaque match a son lot de péripéties. Et puis donc là, ça a été un match au pointage tout à l'avantage des Golden Knights. Donc, qui, après avoir perdu 3 matchs de suite, égale la série pour faire 3-3. Noah Hanifin, qui connaît une bonne série, lui, deuxième but dans cette série-là, va marquer pour ouvrir le score. Et le seul autre but dans cette rencontre-là, ça va être en toute fin de match. Mark Stone, dans un filet désert, il va faire 2-0 et ça va se terminer ainsi. 30 tirs contre 23 pour les Golden Knights. C'était Aiden Hill dans le filet, qu'on avait décidé de mettre, même si Logan Thompson avait d'excellentes performances. Et puis finalement, ça l'a payé. Ton compte rendu de ce match?
Ben, juste pour sauter tout de suite sur ce que tu as dit avec Aiden Hill, là, je ne sais pas si tu as écouté le dernier 32 Thoughts avec Elliot mentionnait justement que.
Oui, c'est lui de vendredi, oui.
Oui, c'est les Hurricanes. Je ne sais pas quelle équipe avait fait ça avant, là, que les coachs ont souvent plus confiance aux gardiens qui leur ont remporté une Coupe Stanley. Puis c'est ce qui. Ouais. C'est quoi son nom, coach? Bruce Cassidy?
Cassidy, oui.
Oui, excusez, j'avais un plan. C'est ce que Bruce Cassidy, c'est Aiden Hill qui a gagné sa coupe l'année passée. Il a switché. Même s'il n'a pas été spécial, j'ai pas trouvé spécialement bon game 5 à Dallas. Là. Il a donné une deuxième chance, puis il a été incroyable. Là. Il a la chance de Miro Skinen quand il est sorti du banc de pénalité, ça aurait pu faire 1-0 Stars. Son arrêt aussi contre Tyler Seguin, ça aurait pu être aussi à ce moment-là 1-0 Stars. C'était un match que dès que la première période, dès que les premières 15 minutes est passé, là, je doutais que ça allait finir un 2-0, 2-1, 1-0. Puis on a eu le premier but encore une fois, juste en troisième période. Là, fait que, non, j'ai trouvé que c'était une excellente rencontre, malgré le bas pointage.
Oui, tout à fait. Puis écoute, Aiden Hill a été donné la. Il a été nommé deuxième étoile du match. Personnellement, je l'aurais mis premier là, avec ses performances. Là, tu sais, Hanifin, c'est un gros but, c'est le but gagnant, mais tu l'as dit, Aiden Hill a vraiment donné raison à Cassidy de l'utiliser là, comme gardien. Puis, tu parlais de 32 Tots, j'ai oublié de mentionner pour les Canucks, mais dans l'épisode de 32 Tots, Elliot Friedman mentionnait que Quinn Hughes et Ronek ne jouaient probablement pas à 100% aussi. Ce qui va être un gros facteur là, pour les Canucks, là, si tes deux gros bonhommes, tes deux meilleurs défenseurs ne sont pas à leur meilleur, là, ça va jouer vraiment en faveur des Oilers dans la série. Mais bon, si on revient à Dallas contre Golden Knights, écoute, c'est vraiment c'est difficile de prédire l'issue du match numéro 7 qui va jouer dans 20 minutes là, au moment où on enregistre ça. Qu'est-ce que tu vois qui va faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre là, selon toi?
J'espère que la foule de Dallas va faire un peu pencher le sort envers les Stars.
Mm-hmm.
Parce que les Golden Knights faudrait qu'ils perdent. Mais pense à la différence, je pense que Oettinger peut jouer un rôle important là, pour que les Golden Knights se fassent envoyer en vacances. J'ai trouvé depuis après la game 2, dans le fond. Excusez, l'œil qui chauffe. Après la deuxième défaite de suite, je trouve qu'on a vraiment vu le Jake Oettinger qu'on a vu lors de la série contre les Flames, là, justement, il y a 2 ans, où il arrêtait tout. Qui était sensationnel, puis qui a été capable de mettre une équipe sur son dos. Mais je pense que ça va être lui le X-Factor de cette rencontre-là, parce qu'on le sait, là, les Golden Knights, c'est une équipe qui est très profonde. Ils sont capables d'apporter de l'attaque sur leurs 3 premiers trios. Et ils ont l'expérience en plus des champions. Donc, non, c'est ça. Jack Oettinger, c'est pour moi la pièce maîtresse là, pour les Stars.
Ouais, puis tout à fait. Puis t'en as parlé. Cette série-là, Dallas Flames en 2022, c'était incroyable comment ça avait pris autant de matchs pour que ce soit enfin qu'on puisse enfin venir à bout d'Ottinger. Ça avait terminé en 7, en fait, puis c'était Ottinger qui avait amené les Stars jusqu'au bout, là, parce que clairement, les Flames étaient une meilleure équipe, autre peut-être finir le goaler. Là.
Ça avait ça avait pris un lancer parfait là, de Johnny Gaudreau là, dans l'autre du filant. C'était pas en prolongation, je me trompe pas. Là, ou...
Ouais, oui, oui, ça oui, je pense que oui.
Ça avait pris le tir parfait. Fait que,
ouais. Puis c'est ça, là, des deux ans plus tard, les Stars sont une bien meilleure équipe plus profonde. Fait que si Ottinger est capable de rejouer du hockey comme ça, ça va être difficile pour les Golden Knights. Mais les Golden Knights, on en a parlé depuis le début aussi, sont extrêmement profonds. Peut-être qu'on a moins produit le bottom six côté des Golden Knights. On a beaucoup vu le trio de Eichel et Marchessault qui sont très bons depuis le début de la série. Il y a des défenseurs, les défenseurs aussi, Pietrangelo, Theodore sont plutôt silencieux jusqu'à maintenant. Anefin joue du bon hockey offensivement. Fait que ça va être tout ça qui va être à voir côté Golden Knights. Puis ouais, je pense aussi là, que, comme tu l'as dit, Ottinger va être un facteur X dans cette rencontre-là. C'est sûr que si il donne des mauvais buts comme en début de série, ben là, ça va être très difficile pour les Stars. Puis on sait les Golden Knights avec leur expérience. S'ils mènent une rencontre, ça va être probablement plus difficile à aller chercher. Moi, ce qui m'intéresse aussi de te parler, c'est que ben, présentement, on a déjà on va pas en parler, là, mais le match Hurricanes-Rangers a été joué. Donc, le début de la deuxième ronde est commencé avant qu'on termine la deuxième ronde qui se termine ce soir. Comment tu vois ça, toi? Moi, je trouve ça personnellement bizarre. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose là-dessus. Là.
Je déteste ça. Ouais. Non, j'ai complètement déteste ça. Je pense que c'est arrivé il y a 2 ans. Où il y a un ou 2 ans, là, je sais qu'il y a une autre série qui s'est arrivée comme ça, puis je déteste ça. Ça arrive dans NBA souvent, puis à chaque fois que je vois ça, je trouve que c'est comme un manque de sérieux. On empêche, ça nous enlève un peu de le focus là, sur la fin de la première ronde. Mm-hmm. Un peu comme pendant la saison de COVID où les Flames puis les Canucks jouaient des matchs là, qui valaient rien parce que les deux équipes n'étaient pas en série, mais il leur restait les deux matchs à jouer. Fait qu'ils ont joué pendant que les autres équipes faisaient leur match de série. Là, c'est un peu. Ça, c'était encore plus ridicule, mais c'est ça. C'est juste que j'aime pas ça. Mais je comprends le fait que la NH sur son deadline, là, qui est quand même assez proche. Là. Je ne me souviens pas c'est quoi la journée exacte, si c'est pas le 24 ou le 21 juin, la date maximum pour jouer la finale, le match 7 de la Coupe Stanley. Mais c'est une de ces deux dates-là, c'est dans ce coin-là ou c'est le 27 juin. Je sais pas c'est quoi versus le draft, mais tu sais, je sais qu'ils sont assez serrés. Ouais. Ils étaient peut-être un peu obligés de partir cette série-là. Puis en même temps, ça fait longtemps que les deux équipes y jouent pas. Donc, je comprends un peu.
C'est ça, on comprend, mais c'est ça, comme tu l'as dit, on comprend pour les enjeux de calendrier, puis ils sont forcés, mais ça reste que c'est dommage, puis c'est bizarre. Tant qu'à moi, ça devrait être 2 journées distinctes, là, la fin de la première ronde, puis le début de la deuxième. Mmh. Mais là, non seulement c'est pas 2 journées distinctes, mais en plus, tu mets le match de Hurricanes Rangers avant le match numéro 7. Tu sais, fais le jouer en après-midi ou plus le match.
Puis ils sautent des jours aussi. T'sais, je comprends que pour les gars, c'est tough là, de dire qu'on a joué un jour. Un match aux 2 jours, mais tu sais, ils ont dû sauter 2 fois, peut-être 2 jours. T'sais, s'ils ont le droit de condenser ça à juste 1 fois par 2 jours, on n'aura peut-être pas ça non plus.
Aussi. Fait que, bref, tout ça, on vous laisse faire votre propre opinion là-dessus. Nous autres, on trouve ça dommage. Mais ça reste que ce match numéro 7, Golden Knights contre Stars, va être très intéressant, peut-être le plus intéressant de cette première ronde. Donc, on va rester à l'affût certainement et on va revenir sur ce match. Bien plus tard aux premières loges. Sinon, il nous reste un match à parler, un autre match numéro 7 qui a eu lieu hier, le 4 mai, la journée Star Wars en passant. Donc, oui, May the 4 be with you, exactement. Bruins contre Leafs, donc.
Cinco de Mayo aujourd'hui. Cinco de Mayo aujourd'hui.
Cinco de Mayo. C'est vrai, c'est une succession. Ouais, fait quoi, donc, deux très belles journées, tu veux bien le mentionner. Puis voilà, donc ce match tant attendu entre les Bruins et les Leafs, c'est William Nylander qui a ouvert la marque, lui qui a marqué les 3 derniers buts des Leafs en fait dans cette série-là. Voilà, donc quand on parlait d'un joueur clutch pour les Leafs, ben Nylander l'a été dans les 2 derniers matchs. Matthews qui était de retour pour cette rencontre a obtenu une passe sur le but et ensuite ben ça a été à l'avantage des Bruins, Hampus Lidholm, qui joue un très bon match parce qu'il va avoir toute une passe sur le but vainqueur. Mais c'est lui qui égale la marque. C'était en 3e période. Donc, ouais, tous les buts ont lieu en 3e période ou en prolongation dans cette rencontre-là aussi. Et finalement, David Pastrnak, qu'on s'en parlait hier, mais c'est Montgomery qui avait dit que les gros joueurs devaient élever leur jeu d'un cran. Marchand l'avait fait dans cette série. Mais là, c'était à Pastrnak. Et parlant de gros buts, ça en était tout un. On parlait d'impost les dômes, la passe en fond de zone pour ricocher sur la bande, que Pasternak s'en emporte et ensuite toute une incroyable fin qui a servi à Samsonov parce que Joseph Paul était blessé. Et voilà, ça termine ainsi. Les Browns qui ne tombent pas dans leur malédiction là, de perdre deux séries de 3-1 après avoir mené 3-1 en deux années consécutives. C'est plutôt la malédiction des Leafs qui se poursuit avec le je ne sais pas combien match numéro 7 de perdu. Puis voilà, 9e?
Ouais, peut-être.
En tout cas, ça fait un méchant bout
pour le
numéro 7. Là. Et voilà, ça se poursuit pour les Leafs. On peut encore rire d'eux. Puis les Browns affronteront les Panthers. Mais vas-y, parle-moi de tes impressions de ce match numéro 7. Quand même exaltant.
Tu as parlé de la pause de Lindholm. Je pense que c'est dans mes jeux préférés au hockey. Du défenseur ou peu importe, du joueur qui lit que l'autre, que son coéquipier a assez de vitesse pour aller chercher la rondelle, puis là, que tu l'envoies dans le coin, elle revient devant le filet, puis on s'entend que je ne sais pas si c'est un jeu qui aurait pu être fait là, à Toronto, parce que selon moi, M. Poseidon me connaît très bien comment que les bandes rejettent la rondelle, je ne sais pas le bon terme, mais comment qu'ils rejettent la rondelle, ils devraient très bien savoir comment que les bandes rejettent.
Rebondissent.
Donc, ouais, rebondissent, exact, merci. Comment les bandes rebondissent. Fait que, il sait à peu près où envoyer la rondelle pour que cette rondelle-là revienne directement devant du filet. Fait que, c'est le d'avoir pensé faire ça, c'est super bon. Puis j'ai vu une reprise là, justement aujourd'hui. J'ai vu Pasternak. Là, après l'avoir laissé à Lindholm, tu le vois pointer un peu comme avec son bâton en disant envoie-moi là, je vais aller la chercher.
Ouais.
C'est ce qu'il a fait parce que tout le monde dormait du côté des Leafs. Et encore une fois, une troisième période incroyable dans ce match-là. Les Leafs prennent l'avant, même pas 2 minutes. Ils n'ont pas même pas l'avance de 2 minutes là, que Lindholm marque le but. Donc, encore une fois, là, les séries, troisième période, quand c'est serré, c'est tout le temps excitant.
Ouais, puis c'était le but de Lindholm, c'était du monde devant le filet, si je ne me trompe pas. Là, de la circulation, fait qu'un but classique pour égaler la marque. Puis puis aussi, revenir sur le but de Pasta, c'est le synchronisme aussi là, de Lindholm qui s'assure de traverser la ligne rouge. Puis de la. Fait que c'était un jeu à zéro risque parce que sa passe aurait été même pas un dégagement refusé si ça n'avait pas marché. Puis, fait que, ouais, avec le synchronisme, Pasta qui pointe, t'as tout bien dit. Et aussi, ben, tu parlais les Leafs qui ont dormi sur la séquence. Morgan Rielly, lui, je ne sais pas à quoi il pensait, comment il a réagi, mais il n'a pas fait vraiment il n'a pas eu l'air de se dépêcher pour revenir sur Pasternak. Il a comme accepté que Pasternak aurait un contre un contre Wall. J'ai trouvé un manque d'effort là-dessus. Peut-être qu'il était en fin de présence et qu'il était fatigué. Là. Mais peut-être que s'il avait été capable de toucher au bâton ou faire de quoi, ça aurait empêché Pasta de compléter sa manœuvre et que les Leafs auraient été encore en vie. Mais bon.
Je ne sais pas comment ça fonctionne. Là, c'est Marner qui embarque sur le jeu. Pasternak, il passe de vitesse. Tu as l'impression que Marner, il laisse aller. Mais es-tu exposé comme être release à Nylander qui le suit? Vu que les Leafs, ça va être entre un 1-2-2. Fait que c'est-tu à Rielly de le prendre, à regarder, de voir Pasta qui arrive à pleine vitesse. Fait comme c'est mon homme, il va falloir que je l'empêche ou que.
C'est dur à défendre, c'est vrai.
C'est dur à défendre, mais c'est dur à savoir aussi c'est à qui vraiment la faute. Là. Les haters des Leafs aiment ça pointer là, que Nylander et Marner n'ont rien fait sur le jeu, mais en même temps, c'est peut-être la faute d'un des deux, mais c'est quoi le. Qu'est-ce qu'ils sont supposés faire dans cette situation-là? Ouais. Je sais pas ce que Sheldon Keefe demande.
C'est la faute aussi, pas juste d'un gars, là, d'un collectif. Là.
Oh ouais, 100%.
À suivre, mais on peut blâmer un peu tout le monde, je pense, du côté des Leafs, puis ça passe au conseil. Fait que, côté des Leafs, il faut en parler. Pour Sheldon Keefe, là, c'est dehors, selon toi?
Sûrement, on a Brad Treleaven qui vient d'arriver, nouveau DG.
Ouais.
C'était beau, si t'es prêt à passer, ça va recommencer à jaser à Toronto. Je pense que le temps est venu pour donner un nouveau message là, aux joueurs.
Bien d'accord avec ça. Là, ça fait, je pense, déjà 2 ans qu'on dit qu'il est sur la sellette. Moi, j'ai été surpris que après le départ de Dubus, Sheldon Keefe survive, lui, garde son poste. Fait que là, je pense que pour cette année, c'est terminé. Puis il y a le noyau aussi. Là, tout le monde envoie de tout bas de côté. On échange Marner, on échange Nylander, peu importe. Est-ce que tu crois qu'on va faire un changement comme ça? Je pense que tout le monde du côté des Leafs le souhaite parce qu'on est rendu là, mais est-ce que c'est vraiment faisable? Est-ce que ce serait vraiment profitable de le faire quand tu les as payés à ce montant-là?
Ben, je pense que ce serait un peu bizarre d'échanger Nylander ou Matthews qui viennent tous les deux de signer des contrats. Ben, je pense que tu regardes le odd man out puis ça devient Marner.
Parce que Tavares, tu ne peux pas bouger ce contrat-là.
Exact. Puis c'est sûr qu'il reste un an, mais tant qu'à ça, au lieu de le garder un an et de passer après, mais je pense vraiment que c'est Mitch Marner. Mais ce qui est dommage, c'est que sa valeur ne risque pas d'être au plus haute là, après avoir vu que tout le monde a vu ses séries, là, à quel point c'est un gars qui n'est pas impliqué, mais en même temps, toujours une équipe qui va se dire « Moi, je vais être capable de le faire fonctionner. » Si tu es capable de le mettre dans une situation où il n'y a pas à être le lead horse, là, si tu veux, là, en série, peut-être que c'est le troisième en série, peut-être que ça peut l'aider. Mais je pense que c'est la fin du Core 4 à Toronto.
Fait quoi, donc Marner va partir selon toi?
Ouais, parce que ça fait pas de sens pour moi d'échanger Matthews et Nylander avec qui tu viens de signer des ententes là, pour un long terme. Ça revient à Marner. Puis surtout que Nylander, tu l'as dit, là, c'est lui qui a marqué les deux buts la sixième partie, puis c'est lui qui a marqué encore un but hier. Je pense pas que tu peux te permettre d'échanger le seul gars qui est là quand t'en as besoin.
Exact. Puis il a combattu des migraines, il parlait que des fois, il perdait la vision, là, clairement, que ses maux de tête étaient forts, puis même en jouant, là, fait que, tu sais, c'est quand même quelque chose, là, puis Matthews aussi a été malade ou blessé, on sait pas trop ce qui s'est passé dans son cas, fait que quand même, il vivait pas des moments faciles non plus en jouant ces deux-là, et tu l'as dit, Nylander était capable d'être clutch, c'est lui qui l'est en série, c'est le seul des cartes pas mal, donc, puis, fait que je suis d'accord avec toi, Nylander, je vois pas pourquoi on les changerait. Matthews non plus, même si l'an passé, je me disais, peut-être qu'un trade vers l'Arizona, mais là, l'Arizona n'existe plus. Fait que là, c'est ça. Quoi que ça s'est déjà fait d'échanger des gars qui ont signé des nouvelles ententes, mais je suis d'accord avec toi, je vois pas pourquoi ça se ferait là. Fait que je suis d'accord que s'il y a quelqu'un qui passe, c'est Marner, mais en même temps, je suis Tree Living, puis je reçois juste de mauvaises offres. Je suis comme, est-ce que je fais ce move-là parce qu'il faut absolument que je le fasse pour sauver ma job, parce que sinon, le monde va, il a rien fait finalement. Fait que, bon, ça va être à suivre, mais moi aussi, là, je pense qu'on est rendu là que Marner parte puis espérer avoir la meilleure offre possible. En terminant, les Bruins contre les Panthers, est-ce que les Bruins ont une chance face aux Panthers? Pour moi, comment j'ai vu les Panthers jouer contre le Lightning, qui est quand même une grosse équipe de série, là, je vois mal comment les Bruins vont pouvoir résister aux Panthers.
Moi aussi, je pense que le manque de punch offensif là, des Bruins va causer leur perte contre les Panthers pour une deuxième année de suite.
Bien d'accord, Barkov, Kachuk, Verhaeghe, tout le monde, Reinhard, tout le monde est en grande forme là, côté des Panthers. Fait que, ouais, il va falloir, comme tu l'as dit, du punch offensif pour essayer d'avoir une chance dans cette série-là côté des Bruins. Fait que, Vince, merci beaucoup pour ta présence. Je te souhaite une excellente ronde numéro 2 et une fin de ronde numéro 1 ce soir aussi, aussi bizarre que ce soit. Et puis à tous, on se retrouve très bientôt pour un autre aux Premières Loges. Merci beaucoup.